Et maintenant, on va retrouver Bobonne, les mots croisés et la radio.
La beauté d'une voix, c'est qu'elle remplit seule une salle immense.
Restez une minute, je viens vous parler.
Je vous écoute.
Bientôt, l'heure de la révolution nationale sonnera.
Et vive la reine !
Vive la reine !
Salut, c'est Lucie, vous écoutez l'Arène, c'est l'émission d'information locale de Canal B. Et au sommaire aujourd'hui, l'info du jour, Braise Alternance et la semaine de l'apprentissage en Bretagne. Une interview avec Léo Charles, maître de conférences en sciences économiques à Rennes 2 et l'un des auteurs d'un petit précis d'économie citoyenne sur la dette publique. Il y aura de la musique, dont une nouveauté. On réécoute la visite guidée de l'expo « Mourir, quelle histoire au champ libre » et puis la recommandation, une rencontre à deux voix pour parler de médias sous contrôle. Bienvenue dans l'Arène. Et on lance, c'est mieux avec le micro ouvert quand même, on lance l'émission d'information locale avec l'info du jour, une que je choisis à chaque fois parmi tout ce qui se raconte dans les médias locaux. Aujourd'hui, on parle de Braise Alternance, la semaine de l'apprentissage en Bretagne. Alors, il s'agit de la deuxième édition d'un événement qui est institutionnel puisque la programmation, elle est portée par la préfecture en partenariat avec plusieurs structures dont France Travail. Je vous en parle puisque c'est quand même un dispositif qui peut intéresser de jeunes auditeurs, alors que les inscrits sur Parcoursup ont, je crois, jusqu'au 3 avril pour confirmer leurs vœux. L'alternance, c'est ce dispositif qui permet une formation qui va du CAP jusqu'au Bac plus 5 avec, c'est la particularité, un temps qui est partagé entre le centre de formation d'apprentis, le CFA, et puis le temps passé en entreprise. La Bretagne, elle compte aujourd'hui près de 49 000 apprentis, 49 000 alternants, et c'est un chiffre qui a plus que doublé depuis 2018. Une alternance qui se féminise avec aujourd'hui 42% d'alternantes à la rentrée 2022. Braise Alternance, la semaine de l'apprentissage, c'est depuis ce lundi 25 et jusqu'au vendredi 29 mars, une semaine durant laquelle des événements sont organisés dans les quatre départements pour, je cite, promouvoir l'apprentissage, informer sur ce dispositif et puis se faire, faire se rencontrer futurs et potentiels alternants, centres de formation et recruteurs. Alors j'ai compté une vingtaine de propositions rien qu'en Ille-et-Vilaine. Il y a aussi des rendez-vous en distanciel, des réunions d'information, des ateliers, échanges, portes ouvertes et ça dans des secteurs très divers, le transport et la logistique, les métiers de l'agriculture et du paysage, le funéraire, l'automobile ou encore l'informatique et le digital. Programme complet à retrouver en ligne sur le site braisealternance.fr. Et après cette info du jour, place à l'interview. Léo Charles, bonjour. Vous êtes avec nous en studio, donc on vous entend mieux si j'ouvre les micros. Bonjour Léo Charles.
Bonjour.
Vous l'entendez, on est en direct, j'ai pas précisé, c'est le petit défi que je me lance une fois par mois, voilà, pour me faire un peu violence. On est donc avec vous Léo, vous êtes maître de conférences en sciences économiques à l'université à Rennes 2. Vous êtes membre du laboratoire interdisciplinaire de recherche en innovation sociétale, le LIRIS, et vous faites partie des économistes atterrés. C'est une association qui a publié en 2021 La dette publique, petit précis d'économie citoyenne. On vous avait déjà reçu pour en parler en 2021. Et si vous revenez, c'est que le livre, il est réédité dans une version qui est augmentée. Les économistes atterrés, en quelques mots, c'est une association lancée en 2010 suite à la crise des subprimes. Vous êtes une trentaine. Vous avez en commun de développer une rhétorique critique du néolibéralisme économique. Et dans cette équipe, il y a plusieurs Rennais. Ce n'est pas que Rennais. Il y a plusieurs chercheurs installés dans différents coins de France.
Oui, on est à peu près dans toutes les universités en France et on est effectivement deux sur Rennes, donc Alban Pellegri et moi-même, qui avons participé à cet ouvrage sur la dette publique.
Le point de départ donc à l'écriture de ce précis d'économie citoyenne, c'était le contexte des gilets jaunes en 2018. La parution, elle a eu lieu au lendemain de la crise sanitaire qui avait, on le rappelle, signé l'arrêt brutal des économies à l'échelle mondiale. Et ce qu'on observe régulièrement, eh bien, c'est qu'il y a une petite obsession politique pour la dette, un poncif, selon vos mots, la dernière fois que vous êtes venu en studio. Et là, on se retrouve en pleine actualité, c'est encore le cas aujourd'hui.
Ouais, l'actualité revient fort sur ce sujet. On discutera sûrement du déficit public et de cette obsession, notamment de Bruno Le Maire autour du déficit public. Mais voilà, nous on a pensé cet ouvrage comme un peu atemporel parce que justement les questions de dette publique reviennent très 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 souvent, avec très souvent en fait, comme vous l'avez dit, les mêmes poncifs, c'est-à-dire qu'il faut rembourser la dette, il faut serrer la ceinture, il faut gérer ça en bon père de famille. Et donc voilà, nous on essaye de déconstruire un peu tout ça dans cet ouvrage.
Parce que dire que ça va de soi, ça a un inconvénient, c'est que ça dépolitise un peu tous ces sujets, quoi.
Ouais, en fait, c'est le problème du néolibéralisme et de notre gouvernement actuel, c'est que tous les sujets économiques sont vus comme des questions un peu comptables, où il faut faire ça, on sait qu'il faut faire ça, et en fait, on dépolitise tout le rapport de domination que peut emmener une dette, toutes les solutions proposées qui sont très souvent défavorables aux classes populaires ou les moins aisées. Et donc voilà, nous, l'idée, c'est aussi de réinscrire en fait cette question de la dette publique, de réencastrer ça dans la société, dans un discours politique, et de dire, ben, en fait, les choses sont pas
magiques.
Comme on dit, voilà, c'est pas magique, et il y a plein d'autres solutions, et on peut se permettre de les dire à la radio, notamment.
Sur Canal B. Et donc là, en 2024, vous sortez une version augmentée de cet ouvrage, La dette publique. On imagine que l'idée de ressortir ce livre, c'est sans doute lié à la fin du fameux « Quoi qu'il en coûte » qui avait été dégainé pendant la crise du Covid.
Ouais, en fait, il y a eu plusieurs motivations à cette réédition augmentée. La première chose, c'est qu'effectivement, maintenant, le « Quoi qu'il en coûte » est fini. Donc, on a un peu plus chiffré, finalement, ce que nous avait coûté en matière de dette publique ce soutien massif de l'État à l'activité économique. On est aussi en période de forte inflation, d'augmentation générale des prix, et on a toujours cet objectif d'atteindre une bifurcation écologique, une nécessité de faire de la bifurcation écologique. Et donc, en fait, ces trois éléments, on a voulu retravailler un peu plus précisément dans cette version augmentée.
On a donc un chapitre sur l'inflation liée, on le découvre, aux marges des grands groupes. C'est pas ce qu'on entend pas mal dans le traitement médiatique majoritaire. On va dire cette question de l'inflation qui, c'est pour moitié, qui en fait est liée aux super profits qui ont été effectués par des grands groupes industriels.
Ouais, effectivement, c'est un discours qui a mis du temps à s'imposer. Maintenant, on commence un peu à parler de ces super profits ou de ces rentes, mais en fait, l'analyse très classique des économistes néolibéraux de l'inflation, c'est l'inflation, c'est un problème, il y a trop de demandes ou il y a trop d'activités, donc les prix augmentent. Et donc, derrière, l'idée, c'est faut pas trop augmenter les salaires, faut éviter ce qu'on appelle la boucle prix-salaire. Et en fait, il y a quelques chercheurs qui, un peu de façon dissonante, ont dit « Mais attention, il y a quand même un effet profit. » Et aujourd'hui, même le FMI, même la BCE, la Banque Centrale Européenne, reconnaît qu'une grande partie de l'inflation actuelle, en réalité, c'est dû au pouvoir de marché de certaines très grandes entreprises qui ont profité de cette occasion pour augmenter leurs marges et donc faire peser en fait la facture aux Français et aux Françaises.
Donc ça, on le découvre dans un nouveau chapitre. Donc dans cet ouvrage sur la dette publique, petit précis d'économie citoyenne, il y a aussi le chapitre sur le financement de la transition écologique qui a été complété. L'idée, c'est que la dette, contrairement là à ce qu'on entend particulièrement en ce moment, on en a besoin et on va en avoir besoin pour mener de grands chantiers, notamment sur la transition écologique.
Ouais, il y a un rapport de Pisani-Ferry et Mahfouz, qui sont deux économistes pas forcément très dissidents, mais qui, eux, en gros, estiment qu'il nous faut 34 milliards d'euros par an d'investissement pour atteindre une économie française neutre. Et eux-mêmes reconnaissent que pour atteindre cet objectif-là, ça va passer par de la dette publique et ça va passer par la fiscalité. Et donc voilà, nous, c'était aussi l'idée de reprendre ces choses-là et d'insister en fait sur la nécessité de faire de la dette publique, de bien expliquer en fait d'où venait la dette actuelle, en partie qu'on appelle une dette inutile ou inefficace parce qu'elle résulte de cadeaux fiscaux ou de réactions à la crise ou de marchés financiers qui décident de nos modalités de financement. Et en fait, nous, on dit que la dette publique, elle est utile, elle est nécessaire si elle finance des choses utiles à la société, et notamment cette bifurcation écologique.
La dernière actualité sur le sujet de la dette publique, c'est la semaine dernière l'annonce donc de l'augmentation du déficit public. Donc, il s'agit de la différence entre les revenus et les dépenses de l'État. Et cette annonce a un peu créé un mouvement de panique. Donc pour 2023, c'est 5,6% du PIB, le produit intérieur brut, puisque c'est calculé par rapport au PIB. Et ça devrait aller un peu en augmentant dans les deux années à venir. Une situation qui est préoccupante pour Pierre Moscovici, le président de la Cour des comptes. Il y a un député Rassemblement National qui a qualifié l'État donc d'un État obèse. La France suit-elle le chemin de la Grèce ? Ça, c'était la question posée par Europe 1. Il faut augmenter les impôts pour Yael Braun-Pivet, qui est présidente à l'Assemblée nationale. Ce mouvement de panique, comment est-ce que vous l'observez ? Est-il justifié ?
Alors, justifié, oui et non, parce que effectivement, le fait d'avoir un déficit public aussi important, ça représente 130 milliards d'euros, hein, faut avoir les idées en tête. Ça peut être inquiétant parce que, en fait, la dette publique, ce n'est que la somme de ces déficits accumulés. Et donc, plus on a de déficits, plus on a de dettes. Après, il faut voir aussi pourquoi, en fait, on a des déficits. Et nous, l'analyse qu'on en a, un peu à contre-courant toujours, c'est de dire que ce n'est pas le fait d'un État obèse, ce n'est pas le fait d'un État qui serait trop social, qui dépenserait trop, qui serait trop généreux, notamment avec les classes plus précaires. Mais en fait, c'est le résultat de choix politiques, pour le coup, menés par Emmanuel Macron et son gouvernement, notamment voilà, depuis 2018, les recettes fiscales, les cadeaux fiscaux s'élèvent à 70 milliards d'euros. Donc voilà, nous, on décrit des tricotes un peu ça aussi, et on montre que en fait ce déficit public, oui, il est inquiétant, mais il est inquiétant parce que c'est le résultat de décisions politiques qui sont en plus inefficaces en matière d'activité économique ou de bifurcation écologique, pour le coup.
Mais donc on n'est quand même pas tout à fait dans la même situation que la dernière fois qu'on s'est vu en 2021, où vous qualifiez la dette de soutenable. Il y a quand même une aggravation de la situation.
Alors, moi, je considère que la dette, elle est toujours soutenable, c'est-à-dire que effectivement, si on regarde l'indicateur classique qui est dette publique sur PIB, on est aujourd'hui à peu près à 112%. Ce qui est assez intéressant, c'est que les économistes n'arrivent pas à avoir de calcul pour nous dire quelle serait la limite fatale pour un État. Donc, moi, je crois qu'on peut encore effectivement s'endetter. Il y a plein d'indicateurs qui sont rassurants. L'inflation, mine de rien, c'est rassurant quand on est un emprunteur, parce que ça diminue le poids de notre dette. Donc voilà, mais ce qui ne veut pas dire, il ne faut pas non plus avoir un discours en disant on s'en fiche, on peut laisser courir notre dette. Moi, je crois que c'est important de mettre les choses à plat, de bien regarder d'où vient notre dette et de s'en rendre compte de plus en plus qu'elle est inutile. Et donc, remplacer en fait cette dette inutile par de la dette utile, là, ça devient effectivement nécessaire.
Les annonces de restrictions budgétaires le mois dernier, donc on parle d'un plan de coupe budgétaire de 10 milliards d'euros qui vont avoir en fait un impact très concret sur plusieurs secteurs. On lit sur France Info que l'écologie, le développement et la mobilité durable sont les secteurs les plus touchés. Et puis, il y a les mots d'Olivia Grégoire, qui est ministre déléguée chargée des entreprises, du tourisme et de la consommation, qui l'assume assez clairement. Il faut qu'on questionne la réalité de notre modèle social, laissant entendre que ce modèle social est à l'origine de notre déficit. Vous allez plutôt chercher du côté des marchés financiers, notre endettement auprès de ces marchés financiers.
Ouais, alors le discours là, il est assez classique, c'est-à-dire, comme vous l'avez bien rappelé, un déficit, c'est des dépenses et des recettes, c'est la différence entre les deux. Le gouvernement toujours va taper côté des dépenses, en arguant l'idée un peu simpliste, on va dire, que les Français sont déjà pris à la gorge, que les prélèvements obligatoires sont déjà beaucoup trop importants. Bon, en réalité, quand on regarde le détail, notre système fiscal est plutôt dégressif, notamment pour les milliardaires. De tête, je sais que les 1% les plus riches payent en moyenne 46% d'impôts sur la totalité de leurs revenus. Les milliardaires, c'est 26%. Donc c'est un peu comme une classe moyenne. Donc voilà, là, il y a déjà un problème. Et le second problème, nous, ce qu'on insiste dans le livre, c'est qu'en fait, dans les années 80, on a fait le choix politique, là encore, hein, de se financer auprès des marchés financiers. Et donc, on a des États et des gouvernements élus démocratiquement qui se voient imposer des conditions de financement par des marchés financiers qui, eux, voilà, demandent des rémunérations de plus en plus élevées, qui font augmenter les taux d'intérêt et qui, finalement, nous imposent des choix économiques à nos gouvernements.
Et justement, on arrive au sujet des solutions, puisque c'est évoqué dans ce livre dont on parle sur la dette publique. Plutôt que d'aller sur les marchés financiers, vous évoquez l'obligation des banques qui pourraient être obligées de placer leur argent, notamment sur la dette publique. On peut détailler un petit peu, est-ce que ça pourrait vraiment arriver ? Est-ce que c'est fait ailleurs ?
Alors ça, c'est très intéressant parce que ça fait partie de, quand on a un regard un peu historique sur la dette publique et le fonctionnement finalement de l'économie, en fait on se rend compte que tout ça c'est le résultat de choix. Et dans les années 80, on avait un système qui n'était pas parfait, il faut le reconnaître, mais qui s'appelait le circuit du trésor. Et notamment la Banque de France à l'époque décidait ou imposait ses conditions de financement aux banques commerciales. Donc par exemple, pour le dire assez brièvement, elle leur disait voilà, moi j'ai besoin de me financer à hauteur de 100 milliards d'euros, vous allez me prêter à tel taux d'intérêt, sinon je vous fais sauter vos licences bancaires, sinon voilà, je vous interdis d'exercer. Donc voilà, ça c'était un choix et c'était une façon de se financer finalement où la démocratie avait encore la main sur ça. Et donc bien sûr que ça peut paraître utopique dans un monde capitaliste dirigé par les marchés financiers, mais je crois qu'il ne faut pas s'empêcher, au-delà de mesures très concrètes et directement applicables, notamment sur la fiscalité, il ne faut pas s'empêcher de se dire que finalement, nous, citoyens, citoyennes, on peut aussi collectivement dire que on ne trouve pas ça normal qu'on nous impose des conditions de financement et inventer des nouvelles modalités de financement. C'est tout à fait possible, oui.
Il y a d'autres pistes qui sont évoquées, notamment celle d'une annulation de la dette. Ça peut paraître incroyable comme idée. Faut pas en faire forcément la seule solution au problème, mais ça peut être une partie de la solution.
Alors ça, ça fait partie. On a pris le parti dans ce livre de montrer toutes les solutions finalement, même celles auxquelles on croit un peu moins. Celle de l'annulation de la dette, ça a fait un grand débat auprès des économistes et même des économistes plutôt classés à gauche. Mais effectivement, en fait, ça reste une possibilité ou une intervention un peu plus massive de la Banque Centrale Européenne. Qui pourrait racheter finalement des bons du trésor de l'État français ou d'autres États européens. En fait, je crois que l'idée de ce livre, c'est aussi qu'il faut s'enlever les barrières mentales qu'on nous impose et se dire, en fait, tout est possible. Alors, une annulation, ça reste possible. Ça a été fait notamment en Argentine, par exemple, et ils sont plutôt bien tirés par la suite. Donc voilà, ça reste possible. Ça peut être compliqué, après, de trouver de l'argent une fois qu'on a dit à ceux qui nous prêtaient, on vous remboursera jamais. Mais voilà, ça peut être une solution, effectivement, pour alléger. Ou alors, l'Union européenne, par exemple, avait proposé à un moment donné, pendant le Covid, de sortir les dettes liées, justement, au coût de la crise, de ce calcul de dette publique sur PIB. Donc ça aussi, voilà, c'est des pistes qui, à mon sens, sont intéressantes.
Enfin, aujourd'hui, on a quand même du mal à imaginer un renversement idéologique sur la question de la dette publique. Les économistes atterrés, j'ai vu que vous aviez été auditionné au Conseil d'État. Ça veut dire quand même que votre voix porte jusqu'aux dirigeants aujourd'hui.
Ouais, c'est une force de notre collectif. C'est pour ça, à mon sens, qu'il est aussi important dans le débat public. C'est qu'on commence à être invité de plus en plus dans les médias. Alors, au départ, c'était un peu la caution de gauche et on ne nous écoutait pas trop. Mais voilà, de plus en plus, effectivement, j'ai fait une audition au Conseil d'État sur la souveraineté et on se rend compte que dans les sphères dirigeantes, le discours aussi commence à infuser et on peut porter une voix un peu dissonante sans être catégorisé comme ultra-gauchiste ou pas sérieux, etc. Donc oui, effectivement, c'est intéressant.
On vous retrouvera bientôt pour une rencontre dédicace autour de cet ouvrage dont on a parlé aujourd'hui. Donc une rencontre dédicace qui aura lieu le mardi 9 avril à partir de 18h à la librairie Le Fayère à Rennes, où vous viendrez, j'imagine, prolonger la discussion autour de ce livre-là.
Oui, il y aura un modérateur et je serai en compagnie d'un de mes co-auteurs, Alban Pellegris. Et donc voilà, l'idée, c'est de discuter des principes. Conclusion de cet ouvrage et d'échanger aussi avec le public parce qu'en fait sur ces sujets-là, nous l'objectif c'est que les citoyens, les citoyennes s'emparent aussi de ce sujet, ne disent pas c'est trop compliqué pour moi, je ne veux pas y toucher. Non, nous on est là pour nourrir le débat, pour nourrir la discussion et que chacun et chacune parte avec des solutions, des idées un peu différentes que ce qu'on peut entendre sur d'autres médias.
Donc on le redit, cet ouvrage, La dette publique, petit précis d'économie citoyenne qui a été réédité dans une version augmentée là, au mois de février,
oui.
Il est à retrouver dans toutes les bonnes librairies. On n'a pas cité l'éditeur.
C'est Point, Le Point.
Le Point. Donc pour cet ouvrage dont vous êtes l'un des auteurs, Léo Charles, on le redit, vous êtes maître de conférences en sciences économiques à l'Université Rennes 2, membre du LIRIS, le laboratoire interdisciplinaire de recherche en innovation sociétale, et donc vous faites partie des économistes atterrés, cette association qui vient de rééditer cet ouvrage dont on a parlé et pour lequel une rencontre est prévue le 9 avril à la librairie Le Fayère à Rennes. Pour plus d'infos, il y a toujours un site internet atterrés.org. Merci beaucoup, Léo.
Merci beaucoup.
Come gather round, people, wherever you roam, and admit that the waters around you have grown, and accept it that soon you'll be drenched to the bone. If your time to you is worth saving, then you better start swimming or you'll sink like a stone. For the times, they are a-changing. Some writers and critics who prophesize with your pen, and keep your eyes wide, the chance won't come again. And don't speak too soon, for the wheel's still in spin, and there's no telling who that it's naming. 'Cause the loser now will be later to win. For the times, they are a-changing. Senators, congressmen, please heed the call. Don't stand in the doorway, don't lock up the hall. For he that gets hurt will be he who has stalled. The battle outside raging will soon shake your windows and rattle your walls. For the times, they are a-changing. Mothers and fathers throughout the land, and don't criticize what you can't understand. Your sons and your daughters are beyond your command. Your old road is rapidly aging. Please get out of the new one if you can't lend your hand. For the times, they are a-changing. It is drawn, the curse it is cast. The slow one now will later be fast, as the present now will later be past. The order is rapidly fading, and the first one now will later be last. For the times, they are a-changing.
C'était Bob Dylan avec le morceau « The Times They Are A-Changing ». Et c'était le choix musical de Léo Charles qu'on a reçu à l'instant en studio pour parler d'un ouvrage sur la dette publique. Ce titre-là que vous venez d'entendre, il date de 1964 et est à retrouver sur l'album du même nom. C'était le troisième disque de Bob Dylan qu'on n'a pas trop besoin de représenter. Donc je le dis vite fait, un artiste américano-folco-poético mythique que vous venez d'entendre dans L'Arène, l'émission d'information locale de Canal B. Une émission qui vous tend son micro. Tiens, si vous avez des actions ou événements à annoncer aux auditeurs, que ce soit avec un collectif, une association ou autre type de structure, n'hésitez pas à m'en informer par email à l'adresse lucie@canalb. On va poursuivre l'émission du jour avec une rediffusion. Et le reportage que vous allez entendre, il a été diffusé dans cette émission le 16 mars. Un aperçu de l'exposition « Mourir, quelle histoire » qui est à voir jusqu'au 22 septembre au musée de Bretagne, au sein des Champs Libres à Rennes. Cette expo, elle est d'abord passée par l'abbaye de Daoulas, dans le Finistère. Et on y parle des pratiques culturelles liées aux rituels funéraires en Bretagne, mais aussi ailleurs dans le monde. Alors, il y a pas mal de propositions à vivre dans le prolongement de Mourir, quelle histoire, des visites commentées à 14h30 tous les week-ends, 6 films courts mortels à voir mardi 26 mars à 20h15 à l'Arvor, La mort en musique avec le chef de chœur Olivier Légeret et la pianiste Coralie Carpus, ça c'est mercredi 3 avril sur le temps du midi au Champ Libre. Et pour finir, le dimanche 7 avril à 14h30, une visite est organisée au cimetière du Nord de Rennes sur les traces des peintres et le même dimanche à 16h, projection du film Cendre, cette fois au Champ Libre, qui nous emmènera du côté du Japon. Le détail est à retrouver en ligne sur le site leschampslibres.fr.
On va au paradis quand on est mort. Là-bas, on est gentil. On se parle gentiment. On se prête les choses. Si on est très méchant, ben on va dans l'enfer.
Peut-être qu'il y a de la lave, des cailloux et des pièges.
Je crois qu'effectivement, là-haut, il y a quelque chose au-dessus de nous. Moi, je dis, c'est peut-être une étoile, quelqu'un qui veille.
Il y a des signes, des fois, on ressent un frisson, ou on entend des bruits. Ils ne sont pas tout le temps là, hein, ils n'ont pas que ça à faire. Mais des fois, ils viennent comme ça, faire des petits signes. Coucou, je suis là, et après, ils repartent.
Visite de l'exposition avec Laurence Prodhomme, conservatrice au Musée de Bretagne, et Edith Joseph, elle est responsable des expositions pour Chemin du patrimoine dans le Finistère.
Et ici, ce qu'on a souhaité faire avec Laurence, c'est mettre les personnes face à la question de qu'est-ce qu'il y a après, mais en les confrontant à des très très jeunes enfants et à des personnes très âgées, parce que c'est principalement les personnes qu'on désigne comme ayant un tabou de sujet par rapport à la mort. Je vais vous décrire brièvement notre pensée, la façon dont on a réfléchi pour cette exposition, qui est thématique, qui n'est pas chronologique, qui n'est pas ancrée dans une géographie qui est celle de la Bretagne, bien sûr, et du monde occidental. Mais on a surtout cherché, puisque nous, on est plus spécialistes, si vous voulez, de l'interculturalité avec les cultures extra-européennes qu'on travaille beaucoup à l'abbaye de Daoulas. Et la question qu'on s'est posée, c'est quel est le rapport des vivants à la mort et aux morts? Et donc, on a réussi à détacher trois grandes problématiques qui sont des plus grands dénominateurs communs, qui sont liés à toutes les sociétés humaines, parce qu'il n'y a aucune société humaine depuis le néolithique, même avant, puisqu'on n'a pas encore forcément les traces archéologiques, qui n'a pas des rituels culturels liés à la mort et aux morts. Donc, on a trouvé trois grandes façons d'agir. C'est celle de l'attachement. Nous allons avoir une série de rituels qui nous permet de nous détacher et des rituels qui nous permettent de garder le lien, en fait, et rétablir les liens entre morts et vivants. Parce que ce que nous disait souvent nos conseillers scientifiques, c'est qu'il est important que les morts restent à la place des morts et les vivants retournent à la place des vivants.
Quelque chose qui est par contre très important et qui va courir tout au long de l'exposition, c'est qu'on a toujours une approche contemporaine aussi de ces rites. Alors sous la forme d'entretiens, soit avec des professionnels, un thanatopracteur, un représentant du culte musulman, du culte juif, de la religion catholique, etc. Des témoignages de personnes qui travaillent dans les cimetières, enfin voilà. Et puis il y a trois espaces qui s'appellent « Questions d'époque ». Qui sont le résultat des membres du conseil scientifique avec lesquels on a travaillé et qui répondent tour à tour en fonction de leur discipline, donc deux historiens, une philosophe, pardon, et un sociologue, et qui répondent à la même question. La première dans cet espace-là étant: que fait-on de nos limites ?
Aller vers le monde des morts ne se fait pas en un instant, il s'agit, pourrait-on dire, d'un déplacement, d'un voyage. Ainsi, dans nombre de cultures, donne-t-on aux morts un pécule qui lui permettra de franchir un péage, mais aussi de la nourriture.
Alors la notion de purgatoire chez les catholiques offre un bon exemple de la façon dont les représentations de l'au-delà évoluent au cours du temps. Le purgatoire est une étape au cours de laquelle les âmes se purifient afin d'être dignes d'entrer au paradis. C'est une notion qui est née au Moyen-Âge, qui décline au XVIIIe siècle, avant de connaître un spectaculaire renouveau au XIXe siècle, puis de s'éclipser au cours du XXe.
On vient d'entendre successivement Patrick Baudry, qui est sociologue, et Samuel Jiquel, historien.
Dans cette vitrine qui correspond à la première section de l'exposition, on s'intéresse aux soins du mort. Tout le monde prend soin de son mort. Moi, je vous présenterai un objet. Alors là, on est en Amérique du Sud, on est dans la zone amazonienne. Donc, on est dans une société chamanique où on communique avec les esprits pour s'assurer une paix. Le chaman porte le manteau, fait les funérailles avec, et pour préparer le corps à son passage dans le monde de l'invisible, eh bien, il va charger ce manteau grâce à des rituels. Et une fois ce manteau chargé, il va pouvoir disposer le corps du défunt dedans, et ainsi son corps pourra accompagner son âme dans la zone de l'invisible. Derrière vous, pour ceux qui sont ici, nous avons sélectionné un certain nombre de photographies mortuaires. Ça a été un gros débat. Alors moi, j'ai beaucoup tenu à ce qu'on présente ces photographies parce qu'elles sont très, très nombreuses dans nos fonds photographiques. C'est une pratique qui a commencé avec l'invention de la photographie. Donc il y a des daguerréotypes qui représentent des personnes mortes sur leur lit de mort et qui a été utilisé très largement jusqu'à la Seconde Guerre mondiale et même un peu plus tardivement dans certains studios photo. Alors pourquoi je tenais moi à ces images-là que l'on a parfois du mal à regarder parce qu'il s'agit essentiellement d'enfants, clairement, parce que c'était un support coûteux pour un certain nombre de personnes. Et c'est quelque chose que les familles vont faire justement pour garder le souvenir de cet enfant. Et c'est tout sauf morbide, en fait. C'est vraiment un hommage rendu à la personne. Les enfants sont toujours présentés de manière flatteuse, entre guillemets, avec tout un décorum de fleurs, de signes religieux éventuellement, et positionnés de manière à présenter une image plutôt positive, en fait, qui même parfois est troublante, parce qu'on ne sait pas si les enfants dorment ou s'ils sont effectivement décédés.
Le cheminement d'exposition reprend le cheminement de chacun, enfin, on peut supposer en tous les cas, et espérer au moment d'un décès. Et donc là, la première partie évoque ce que l'on fait au corps lui-même, quel traitement on lui inflige. Et puis après, il y a cette idée de déplacement, puisqu'on va forcément se déplacer, que ce soit pour une inhumation ou une crémation, on va se déplacer. Alors ici, on a quelques objets qui n'étaient pas présentés à Daoulas.
Un catafalque, c'est une estrade funéraire sur laquelle on pose le cercueil.
Qui a été restauré uniquement pour l'exposition, et sur lequel, tout comme cette chasuble, donc qui est une pièce textile du XVIIIe siècle, très rare quand même en Bretagne aussi, et sur lequel on retrouve des motifs que l'on va retrouver tout au long en fait, de l'exposition, qui sont donc les tibias croisés avec le crâne, parfois le crâne au-dessus, et puis sur la chasuble, on retrouve tous les signes, les larmes du Christ également.
C'était important aussi pour nous de ramener de la contextualisation. Parce que les objets dans les vitrines, ils sont très beaux, mais ils ne bougent pas. Et ces pratiques funéraires, elles sont extrêmement vivantes. Et là, vous allez voir aussi qu'il y a des sociétés dans lesquelles on a des pratiques beaucoup plus festives en termes de funérailles, comme les pallbearers du Ghana.
On a évoqué tout à l'heure l'idée du cheminement intellectuel, mais il y a aussi un cheminement physique. Et c'est pourquoi on a présenté ce très beau corbillard. Lui, c'était un corbillard municipal qui était utilisé dans la commune de Vignoc. Et il a été utilisé jusqu'aux années 1970. En fait. Ça permet aussi d'évoquer l'origine sociale en fait, des individus. Aujourd'hui, il y a encore des classes dans les trains. Et il y avait des classes d'enterrement aussi, qui allaient de la première à la sixième classe. Donc la première classe, c'était l'enterrement très très riche, où les chevaux avaient un habit particulier, où il y avait un officiant comme celui qui est présenté dans la vitrine là-bas, avec un corbillard extrêmement décoré. Et puis, moins on avait d'argent et plus on finissait avec une simple charrette, en fait. Donc financièrement, même quand on est mort, en fait, on n'est pas exactement égaux, puisqu'il y a toujours des pratiques un peu différentes. Et puis là aussi, c'était la présence dans la rue, en fait. À la fois, il y avait ces rideaux aux portes des maisons, et puis quand on voyait passer un corbillard comme ça, on savait de quoi il en retournait. Aujourd'hui, dans notre culture, il y a quand même quelque chose qui a tendance à s'effacer, au moins dans ce qui est l'espace public de l'art.
Et une fois cette déambulation de funérailles effectuée, on se retrouve au cimetière. Ici, vous pouvez reconnaître assez facilement, parce que c'est plus proche de nos cultures, des stèles qui sont chrétiennes, juives et musulmanes, qui sont extrêmement bavardes, puisque finalement, c'est des objets qui racontent aux vivants la vie du mort. C'est ce qui nous permet aussi de garder le lien, de se rendre sur un lieu. Et vous avez aussi, dans d'autres sociétés, exactement le même genre de rapport, mais qui nous est peut-être plus aveugle, parce que nous n'avons pas l'école. Là, vous avez des magnifiques photos à l'OAL, qui vient de Madagascar. Ils marchent toujours par deux et il peut y avoir jusqu'à une vingtaine de poteaux. Ces lettres que vous avez sur les plateaux sont l'affaire aussi d'une rivalité, de virtuosité pour les sculpteurs qui vont les réaliser et aussi représentent l'activité principale qu'avait le défunt.
Alors, entre Madagascar et la Nouvelle-Guinée, il y a aussi quelques petites incursions bretonnes. avec ici donc quelque chose qui évoque la cérémonie de la proella, donc ces rites qui consistaient à remplacer sur l'île d'Ouessant et dans d'autres îles aussi le corps d'un défunt qu'on n'avait pas retrouvé par une petite croix en cire qui était enterrée à la place du mort en fait. Donc cérémonie qui a été arrêtée dans les années 50 parce que ça posait de gros problèmes à l'Église catholique quand on retrouvait le corps justement du marin que l'on avait déjà enterré une première fois qu'il fallait re-enterrer. Et puis derrière moi vous avez quelques très belles boîtes à crânes qui m'ont été prêtées par Saint-Paul de Léon qui sont aussi une particularité régionale. Il faut dire que les ostuaires, il y en avait beaucoup, il en reste que quelques-uns. C'est aussi une pratique qui continue en fait à se faire lorsqu'une concession arrive. À échéance, il faut récupérer ce qu'on appelle la réduction du corps. Donc, et puis les ossements sont placés dans une petite boîte et la boîte elle-même est placée dans l'ossuaire.
Ici, on arrive dans une zone où on évoque ce qu'il faut faire pour avoir une bonne mort. Et notamment dans le cadre de la religion catholique, il faut effectivement bien se comporter. Quand on se comporte moyennement bien, mais qu'on a de l'argent, on peut toujours faire appel aux indulgences plénières, c'est-à-dire payer des messes, payer des pardons, des choses comme ça.
Derrière vous, là-bas, les Taolénous, qui sont là aussi une pratique vraiment très régionale. Les derniers ont été réalisés dans les années 1940. Les premiers datent du XVIIe siècle. C'est un missionnaire qui avait mis ça au point pour des gens qui étaient analphabètes. Et donc, c'était des tableaux qui indiquaient tout ce qu'il fallait faire et pas faire. Donc, pas faire, évidemment, la luxure, le vol, la jalousie, etc. Donc, chaque tableau présente un des péchés qu'il faut éviter autant que possible pour avoir une bonne mort. Et c'est quelque chose qui a imprégné vraiment la croyance populaire en Bretagne jusqu'à très tardivement.
La visite se poursuit sur le thème de l'après la mort, en passant par l'ankou breton, des figures similaires en Indonésie, l'âme en trois parties chez les Inuits, le regard sur l'enfer porté par l'art naïf, les aborigènes et le rêve des ancêtres primordiaux. Et nous voilà arrivés à la troisième partie de l'exposition sur le souvenir.
Un élément que l'on a aussi pensé en tous les cas comme commun à toutes les cultures, c'est un besoin de communication avec les morts. Pour l'Occident, on va évoquer très rapidement le spiritisme et la communication, elle va jusqu'au souvenir, en fait, que l'on éprouve dans notre société à travers des relations qui peuvent être collectives. Bon, là, vous le verrez à travers tous ces objets qui évoquent, en fait, les monuments aux morts. On a mis quelques objets, là, qui évoquent le décès de Lady Di, parce que ça a été vraiment un décès qui a marqué énormément les gens et dont souvenir continue à être honoré aussi. À Paris même. Et c'est donc une collecte qui avait été faite par le MUCEM à travers des objets assez ordinaires mais qui disent tout l'attachement. Alors une toute autre façon de communiquer avec les vivants ailleurs.
Dans les deux cultures que vous a proposé d'aborder ici, on communique avec l'invisible. Là, on le met très précisément sur les images que vous voyez avec la cérémonie de l'Egungun. Les Gungun, c'est le costume que vous avez là. Alors, ce qui était important pour nous de retranscrire, c'était vraiment l'idée que là, le son, le costume, la danse du costume, le son, le chant, les litanies sont extrêmement importantes parce qu'on va créer un phénomène de transe. Le chaman ou la personne qui porte le masque va se mettre en transe.
Du Bénin, on part au Mexique, avec sous nos yeux, à présent, un hôtel des morts qui attire le regard avec ses couleurs vives.
Et donc, l'hôtel a été installé à Daoulas avec aussi des personnes d'origine mexicaine qui habitent dans le Finistère, et ici également avec ceux avec lesquels on travaillait. C'est aussi là pour montrer une pratique toujours en cours, donc c'est pas du tout du folklore, c'est vraiment quelque chose qui est pratiqué. Les photographies qui sont à chaque fois associées correspondent aux défunts de l'année, en fait, dans la famille. C'est quelque chose qui continue à se pratiquer dans l'univers domestique de la maison, en fait. On continue à faire un hôtel comme ça, et les enfants y tiennent beaucoup, donc il y a des petites têtes de mort en forme de sucre, on met de la nourriture pour que les morts aient de quoi suivre leur chemin sans être affamés, un petit peu de boisson aussi. Donc c'était intéressant, surtout pour le côté vraiment contemporain encore de la pratique. Alors le lien, le souvenir, etc., on termine un petit peu sur cette idée avec des objets très différents sur le plan plastique, mais qui ont une vocation par contre un peu identique, qui sont les reliquaires. Alors avec ici des petits reliquaires vraiment domestiques, qui sont réalisées à partir des cheveux du défunt. Ça a été très très en vogue tout au long du 19e siècle. Il y avait des coiffeurs qui se présentaient comme artistes en cheveux et qui réalisaient donc ces petits cadres avec des mèches de cheveux dessinent parfois des scènes. Il peut y avoir aussi la photographie du défunt et souvent une petite dédicace. En fait, ce sont des objets très émouvants. Le bras reliquaire n'était pas présenté à Daoulas et là on trouve que c'est une très belle association en fait pour une vocation identique qui réside dans l'idée de conserver des éléments du corps en fait. Donc dans le bras reliquaire il y a un morceau d'os. Donc c'est une pièce d'orfèvrerie assez exceptionnelle qui nous a été prêtée après quelques négociations on va dire parce qu'on tenait vraiment à le présenter.
Alors aujourd'hui heureusement dans les collections françaises nous n'avons pas les ossements de ces reliquaires, nous avons juste les couvercles, ce qui n'est pas plus mal. Voilà ce que je voulais dire, qu'on avait tenu ici à ne pas faire de sensationnalisme autour d'un sujet qui est la mort, à ne pas être morbide, à bien montrer les pratiques vivantes, comme j'espère on s'est employé à vous le transmettre. On n'a pas exposé de momies, on n'a pas exposé d'ossements, parce que finalement, on n'a pas voulu faire le show avec des éléments physiques qui, pour les personnes issues des cultures qui les pratiquent, sont faits pour rester cachés ou tabous. Vous n'avez aucun objet tabou dans cette exposition. Ce sont des objets qui ont été façonnés par les cultures dont elles sont issues pour servir comme objet magico-religieux et donc un objet public.
Les corps qui se décomposent dans la terre, je trouve un peu ridicule que ce soit dans un cimetière. Je dis toujours, sur l'emplacement où je serai, on mettra des arbres avec des petits fruits pour nourrir les oiseaux.
Salt in the water.
White Horses par Donna Blue sur Canal B. C'était une nouveauté musicale repérée par Yann Barbotin, notre programmateur musical ici à la radio. Un titre que vous pouvez retrouver sur un album, Into the Realm of Love. C'est sorti le 8 mars dernier sur le label Snow Star. Et c'est un 11 titres qui forme le deuxième disque pour Donna Blue, un projet pop 60s formé par deux Néerlandais, Danik van Kesteren et Bart Vandal. Vous êtes toujours sur Canal B dans l'arène, une émission qui s'écoute du lundi au vendredi sur le 94.0, mais aussi sur canalb.fr, un site où vous pouvez retrouver l'ensemble des podcasts des émissions réalisées par des salariés, mais aussi par de nombreux bénévoles, puisqu'on est une radio associative. Allez, avant de se quitter, la recommandation du jour. La recommandation du jour, c'est à chaque fois en fin d'émission des conseils modestes d'événements à vivre près de chez vous, aussi parfois de quoi nourrir vos envies de lecture, de podcast ou encore de documentaire. Aujourd'hui, on annonce une rencontre qui est organisée par les Amis du Monde Diplo de Rennes à l'occasion des 70 ans de ce journal mensuel français, connu pour être critique du libéralisme économique. Médias sous contrôle, c'est le nom de cette rencontre, à vivre mardi 26 mars à 19h, salle de la Cité à Rennes. Autour de la table, on retrouvera Benoît Bréville, le directeur du Monde Diplomatique, et puis Guillaume Meurice, humoriste bien connu, auteur d'un nouvel ouvrage « Dans l'oreille du cyclone » qui est paru là, en ce mois de mars 2024. Les médias qui font l'opinion sont bien souvent dépendants d'intérêts industriels, financiers ou de subventions publiques. Comment cela influe-t-il sur leur traitement de l'information? C'est la question qui sera posée mardi, en public, lors d'une rencontre qui est gratuite et sans inscription. Pour plus d'informations, il y a le site Ami .monde-diplomatique.fr et je vais vous laisser avec la voix de Renaud Lambert qu'on avait reçu dans l'émission fin 2022. Il était alors rédacteur en chef adjoint du Monde Diplomatique, sauf erreur, il y est toujours journaliste.
C'est un mensuel qui a été créé en 1954, qui était initialement un journal qui présentait des informations diplomatiques pour les diplomates, d'où son nom. Et puis, avec l'arrivée à la tête de ce journal de Claude Julien en 1973, le journal a connu une évolution assez singulière et il est devenu une voie un peu à part dans le paysage de la presse française. Une voix qui se distingue toujours un petit peu du reste du paysage à l'heure actuelle. C'est un journal qui se distingue sans doute par sa bonne santé à l'heure actuelle et qui lui permet d'offrir aux gens qui travaillent pour lui deux choses que peu d'entreprises de presse fournissent à leurs journalistes. C'est du temps pour travailler et des moyens pour faire leur travail. Donc, le Monde Diplomatique, c'est ce mensuel qui a aussi un modèle économique singulier dans la mesure où son capital est détenu d'une part par le groupe Le Monde, mais aussi par l'association de ses salariés et l'association des lecteurs, l'association qui organise les grandes rencontres dont il est question ici. C'est-à-dire que cette association, c'est pas uniquement des gens qui lisent le journal, qui diffusent ses idées, ce sont des gens qui cherchent à défendre son indépendance et cette voix singulière dont j'ai parlé brièvement.
Petite précision, le Monde Diplomatique, c'est donc un mensuel qui se trouve être le plus diffusé dans le monde avec plusieurs versions internationales. Et pour ce qui est de la France, plus de 120 000 abonnés en 2021. Vous l'avez dit, un modèle économique un peu particulier. Est-ce qu'il y a d'autres médias qui bénéficient d'un tel soutien de leurs lecteurs au point d'être regroupés au sein d'une association et de financer le journal ?
Oui, il y a d'autres journaux qui ont des associations de lecteurs. Alors après, est-ce qu'ils bénéficient d'un soutien de cette ampleur ? Réellement, je ne crois pas. Le journal a connu des périodes plus difficiles que d'autres. Et au début des années 2010, c'était une période de vache maigre pour nous. Et à cette époque-là, le directeur du journal, Serge Halimi, faisait appel à nos lecteurs pour leur demander des dons qui permettraient de protéger l'indépendance du journal, protéger sa ligne, et la réponse des lecteurs a été phénoménale. C'est aussi une chose que l'on observe dans toutes les réunions publiques que l'on réalise. Il y a une adhésion à ce journal, une fidélité dont je pense vraiment qu'elle est très singulière.
C'est terminé. Une émission émission d'information locale à écouter du lundi au vendredi à 17h sur Canal B et en rediffusion à chaque fois le lendemain à 8h. Pour suivre l'émission, pensez à vous abonner à la newsletter, le courrier de la reine, le détail et les podcasts sont à retrouver sur canalb.fr. Allez, je vous dis à bientôt.